Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Oui! Oui!
Edith Schwolver, chanteuse et actrice allemande dans une émission de radio berlinoise de l'Ouest culte des années 50, dit Insulaner, les insulaires. On moquait sur le ton de la plaisanterie ou de façon plus sérieuse le communisme de l'Est de la ville. Un vieil enregistrement de Berlin donc pour un thème histoire cette semaine dans Vue d'Allemagne, le pont aérien de la ville. Des centaines de milliers d'hommes et d'avions mobilisés pour ravitailler Berlin en nourriture, carburant ou encore médicaments, seulement par avion, pendant près d'un an. C'était il y a 70 ans, en 1948. On y revient dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine, direction la Turquie, où Recep Tayyip Erdogan a été réélu dimanche dernier. On verra à Istanbul comment l'Europe peut travailler avec le président qui voit encore ses pouvoirs renforcés. C'est Hugo Flotatalon, micro cette semaine, Willkommen, bienvenue à tous. C'était donc il y a 70 ans, 1948, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a fait près de 40 millions de morts. L'Allemagne est occupée, soldats et administrations américaines, anglaises, françaises et soviétiques se partagent le pays. 4 secteurs bien définis par ceux qui ont vaincu le régime nazi. Alors si on prend une carte, on voit l'Ouest d'un côté, régi par les Américains, Anglais et Français, sous un régime libéral, et l'Est, communiste, géré par les Soviétiques. C'est dans cette partie Est que se situe Berlin, avec un régime particulier. La ville est donc en zone soviétique, mais est un îlot à part, on peut dire cela ainsi, divisée elle aussi en 4 zones, gérée là encore par les Américains, Anglais, Français et Soviétiques. On est alors en pleine période de guerre froide, un affrontement idéologique et parfois militaire aussi entre l'URSS communiste et les Américains soutenus par les régimes occidentaux. À Berlin, tout est relativement calme encore pour le moment. Mais c'est alors que le 20 juin 1948, les alliés américains, anglais et français décident d'instaurer une monnaie commune pour leur secteur, Ouest, le Deutschmark. Ils veulent stabiliser l'économie allemande. Sauf que l'URSS craint une domination occidentale de par la monnaie sur l'Allemagne et sur Berlin et refuse l'entrée en vigueur de cette monnaie. Le Deutschmark est tout de même mis en place, les Soviétiques n'y peuvent rien, mais dans la nuit du 24 juin 1948, ils coupent tous les accès terrestres à Berlin-Ouest. Bientôt, les lumières s'éteignent également par manque d'électricité. Le bloc de l'Est veut faire pression sur les habitants pour faire craquer les alliés. Gerhard Bürger vit alors à Berlin-Ouest et se demande ce qu'il se passe.
La peur que les Américains nous abandonnent, qu'on soit entre les mains des Russes, était vraiment très grande chez tous les Berlinois.
Mais les alliés tiennent tête. Berlin, l'ancienne capitale de l'ennemi nazi récemment défait, représente énormément à leurs yeux. La ville est vue comme un rempart à défendre contre le communisme. Sauf qu'aucun accord n'a été conclu avec les Soviétiques quant à l'utilisation des routes. Ils ne peuvent donc rien faire contre le blocus mis en place. Les 2 millions de Berlinois de l'Ouest sont bientôt menacés de famine, comme se souvient Eberhard Schoenknecht, un habitant.
Le rationnement normal a commencé à être durci. L'électricité a été coupée rapidement. C'était vraiment un tournant dans la vie sur lequel on ne pouvait pas agir.
C'est donc à ce moment-là que le président américain Harry Truman, en consultation avec les alliés, décide d'une opération de sauvetage spectaculaire. L'approvisionnement du secteur ouest par les airs, comme le raconte aujourd'hui Bernd von Kösta du musée des alliés à Berlin.
L'idée de base d'effectuer un pont aérien était soutenue par les alliés, car il n'y avait pas d'alternative. C'est ainsi que ce pont aérien provisoire, l'idée inimaginable de subvenir aux besoins de 2 millions de personnes via les airs, est mise en place.
Le 26 juin, les premiers avions de l'US Air Force partent de Francfort et de Wiesbaden vers l'aéroport de Tempelhof à Berlin. Les Anglais sont mobilisés aussi. Les Français qui avaient, eux, souffert de l'occupation allemande et font la guerre en Indochine apporteront un soutien plus réduit au départ. Dans tous les cas, des milliers d'avions survolent bientôt Berlin. Toutes les 90 secondes, un appareil atterrit sur l'aéroport de Tempelhof dans le secteur américain. Et dès novembre, d'autres rotations auront aussi lieu sur un second aéroport, celui de Tegel, construit en à peine 3 mois par les forces françaises aidées des Berlinois. Ce cadencement infernal à peine croyable n'est pas de trop. Chaque jour, la partie ouest de Berlin a besoin, accrochez-vous, de 5 à 6 000 tonnes de nourriture et de charbon. Ces pilotes du pont aérien, constamment en action, sont fatigués. Ils risquent leur vie en survolant la ville par tous les temps. Certains avions s'écraseront d'ailleurs. Les Berlinois, eux, voient les appareils parfois juste au-dessus de leur tête. Vous avez déjà peut-être déjà vu cette célèbre image d'enfant agglutiné sur une butte qui salue de la main un avion juste au-dessus d'eux. Les pilotes lançaient parfois chocolat et chewing-gum d'ailleurs de leur cabine aux enfants, comme se souvient aujourd'hui Günther Schlimtek.
Die Einstellung damals zur Luftbrücke.
Les attitudes à l'époque du pont aérien étaient absolument géniales pour nous les jeunes. La sympathie pour les Américains était toujours très, très grande.
Sehr, sehr groß.
Une sympathie et des exploits logistiques qui ne doivent cependant pas faire oublier les efforts et les capacités d'adaptation de la population à l'époque. Car même avec les ravitaillements, la vie n'est plus tout à fait normale, comme le raconte l'historien allemand Walter Hofer.
Il faut s'imaginer ce que cela signifie en hiver de n'avoir qu'une heure d'électricité par jour et par maison. C'était comme ça parce qu'on devait ramener le charbon pour les centrales par avion. Et en plus, l'heure d'électricité disponible ne l'était pas toujours au même moment. Donc, vous pouviez vous retrouver à cuisiner votre seul repas chaud de la journée à 1h du matin. Le chauffage, on n'en parlait même pas. Ce sont des épreuves incroyables que la population a endurées.
Lors d'un discours devenu historique le 9 septembre 1948 devant 300 000 personnes, le maire de Berlin-Ouest, à l'époque Ernst Reuter, appelle d'ailleurs le monde à ne pas laisser tomber Berlin-Ouest et ses habitants.
Vous, peuple du monde, peuple d'Amérique, d'Angleterre, de France, regardez cette ville et comprenez que vous n'avez pas le droit d'abandonner cette ville et ce peuple.
Chaque jour qui passe pendant le blocus, l'Ouest gagne en sympathie dans l'opinion publique internationale face à l'Union soviétique. Et le 12 mai 1949, Joseph Staline se rend compte qu'il ne gagnera pas sa partie de poker. Il abandonne le blocus de Berlin en place depuis près d'un an, après des négociations secrètes avec les Américains. Le pont aérien prendra fin ainsi progressivement. Au total, quelques 260 000 vols auront été nécessaires, plus de 2 millions de tonnes de nourriture, charbon ou médicaments transportés. Une période qui aura aussi des conséquences politiques et géopolitiques. Les Allemands à l'Ouest, en tout cas, se sentent à nouveau inclus dans la communauté des pays occidentaux. Un retour après les terribles ressentiments laissés par la guerre. Bernd von Kösta du Musée des Alliés à Berlin.
Les Allemands ont travaillé de façon très rapprochée avec les Alliés pendant ce pont aérien. Ils n'ont ainsi plus vu les forces d'occupation alliées seulement comme des forces d'occupation, mais aussi comme des forces de soutien.
Le début d'année de coopération entre l'Allemagne et les États-Unis, notamment, même si cela ne se fera pas du jour au lendemain. Pour les habitants de Berlin, pourtant, la fin de ce pont aérien ne représentera pas la fin des problèmes. 12 ans plus tard, en 1961, un mur sera construit dans la ville pour séparer l'Est de l'Ouest. 155 km de béton qui couperont tout contact entre les deux parties de la ville pendant plus de 28 ans.
Die Kapelle rum tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg.
Freiheit, Liberté de Marius Müller, Westernhagen, qui deviendra des hymnes de la réunification allemande. Direction la Turquie maintenant pour la seconde partie de ce magazine. Dans le pays, auprès de 80 millions d'habitants, Recep Tayyip Erdogan a gagné son pari dimanche dernier. Réélu au premier tour avec la majorité des voix, il remporte aussi avec son allié nationaliste du MHP la majorité absolue au Parlement. Alors désormais, l'opposition en Turquie ainsi que l'Europe devront apprendre à dialoguer avec Erdogan, c'est certain. D'autant qu'à la tête du pays depuis 15 ans, le chef de l'État turc voit ses pouvoirs renforcés grâce à ce scrutin. Solène Perman nous emmène à Istanbul.
Sur le bateau pour traverser le Bosphore, les Stambouliotes avaient les yeux cernés lundi matin en allant au travail. D'abord, il y a ceux qui ont célébré jusqu'à l'aube le succès de Recep Tayyip Erdogan et de son parti islamo-conservateur AKP.
I love you, Tayyip.
Et puis il y a les autres, les opposants, qui ont passé la nuit incrédule à observer la victoire écrasante du président sortant.
Je pensais au moins qu'il y aurait un deuxième tour. Toute la nuit, j'ai espéré me réveiller de ce cauchemar.
Dimanche soir, Recep Tayyip Erdogan n'a pas attendu la publication des résultats officiels pour annoncer sa réélection. Le président a remporté le scrutin dès le premier tour avec 52,5% des voix. Son parti remporte aussi avec son allié nationaliste du MHP la majorité absolue au Parlement.
Ces résultats seront bons pour notre nation et cela grâce à Dieu. Avec près de 90% de participation, la Turquie a donné une leçon de démocratie au monde. Comme vous le savez, ce 24 juin, les citoyens n'ont pas seulement élu leur président et 600 députés au Parlement, ils ont aussi rendu actif notre nouveau système de gouvernance.
Soupçon de fraude et de manipulation, Muharrem İnce, qui était présenté ces dernières semaines comme le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, a d'abord contesté la défaite avant de capituler. Lors d'une conférence de presse lundi à Ankara, il a exhorté le chef de l'État à être le président de tous.
Monsieur Erdogan, arrêtez désormais de vous comporter comme le secrétaire général de l'AKP. Soyez le président de 81 millions de Turcs. Embrassez tout le monde.
Ce que craint l'opposition, c'est l'entrée dans un régime dangereux où le pouvoir serait concentré entre les mains d'un seul homme. Car ce scrutin marque aussi le passage du système parlementaire actuel à un régime présidentiel. La fonction de Premier ministre sera supprimée, le chef de l'État pourra gouverner par décret, il décidera aussi de la politique monétaire du pays.
Je ne suis pas favorable au système présidentiel. Ça ne me paraît pas logique de donner tous les pouvoirs à un seul homme. Et je ne me sens pas représenté par le président actuel. Surtout qu'il est chef de l'État, mais continue aussi d'être le président de son parti.
Jusqu'à dimanche soir, les partisans de l'opposition comme Ahmet Aslan, ingénieur en mécanique, ont voulu croire au changement.
Erdogan règne sur la Turquie depuis 15 ans déjà et il est réélu pour 5 ans supplémentaires. J'espère que le meilleur est à venir.
Rare lot de consolation pour l'opposition, le parti pro-kurde HDP a dépassé le seuil obligatoire des 10% pour entrer au Parlement. Baylan Bacı, chercheur en sciences politiques et directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, voit cela d'un bon œil pour la démocratie en Turquie.
Il y a une présence kurde au sein du Parlement. Un lieu pour débattre. Et ça va obliger, à mon sens, l'AKP et le parti pro-kurde à retrouver un certain dialogue.
Le dialogue, selon Baylan Bacı, c'est précisément ce que doit entreprendre Recep Tayyip Erdogan. Le dialogue avec l'opposition d'abord, mais aussi avec l'Europe, qui entretient des relations tendues avec la Turquie ces derniers mois. Selon le chercheur en sciences politiques, deux choix s'offrent désormais à l'Union européenne.
Où elle accepte le fait que le peuple turc aime un président qui pratique un pouvoir avec un certain autoritarisme, ou alors on décide de dire que les relations entre la Turquie et l'Europe ne peuvent pas continuer comme ça, et qu'ils prennent des mesures qui peuvent aider à mettre un terme définitif au projet d'adhésion qui est déjà de toute façon en panne.
Difficile cependant, selon Baylan Bacı, d'imaginer la Turquie sans l'Europe.
La Turquie n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est déjà européenne. Il y a un tel niveau d'interdépendance au niveau de la question des migrants, de l'économie et l'Europe. J'ai l'impression qu'elle va être obligée de faire avec, parce que c'est aussi dans son intérêt.
Lundi, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a critiqué les conditions de la campagne électorale en Turquie. Elle estime qu'elles n'ont pas été équitables. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a félicité le président Recep Tayyip Erdogan. Elle a fait part de son souhait pour la Turquie d'être un état de droit, stable et pluraliste. Solène Perman à Istanbul pour la Deutsche Welle.
Et sachez que 2 800 000 personnes en Allemagne vivent avec la nationalité turque ou des origines turques. Plus d'1,5 million étaient appelés à voter la semaine dernière. La moitié l'ont fait et 65% se sont prononcés en faveur de Erdogan. Merci à Solène Perman et Ralph Bosen pour leur aide dans la préparation de ce numéro. Vue d'Allemagne se termine pour aujourd'hui. Vous retrouvez, comme chaque semaine, cette émission à lire, à réécouter, à partager, à commenter sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous retrouve avec Anne Le Touzé la semaine prochaine. D'ici là, lasst euch gut gehen, portez-vous bien, bis bald, tschüss.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum tata,
und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg, Freiheit, Freiheit, ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit, ist die einzige, die fehlt. Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten es feiern, nicht versäumen, so wie heute Abend hier. Sollen tanzen, auch aufregen. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. So kommt jetzt, meine Süßen, komm! Ist das Einzige, was zählt.
Pete, komm her. Komm her, komm her, Pete. Die Pete Wingfield, piano. Dankeschön. Tut mir gefallen, nehmt das, was heute Abend hier passiert ist, mit nach draußen. Das ist unglaublich. So, wir geben euch jetzt einen guten Nachtkuss. Jay?
Deutsche Welle.